Un air d'actu avec Serge Carrel.
Les objectifs de développement durable sont une sorte d'agenda international qui vise à réduire la pauvreté sur la planète et donc à améliorer la qualité de la vie pour tous. Aujourd'hui, au travers de l'engagement de la Croix Bleue internationale, nous voulons examiner ce que peut apporter à notre planète l'objectif de développement durable numéro 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Madame, Monsieur, bienvenue. Sophie Tarquini, merci d'être venue dans le studio de Radio Air. Vous êtes chargée de projet à la Croix-Bleue internationale. Qu'est-ce qui fait que depuis 2021, vous vous êtes engagée dans cette ONG ?
Bonjour, merci de me recevoir. Alors je me suis engagée auprès de l'IBC il y a un peu plus d'une année maintenant, après mon retour du nord de la Thaïlande. J'ai vécu là-bas pendant plusieurs années et j'ai pu être témoin des ravages que cause la consommation, l'abus d'alcool et d'autres drogues sur les enfants, sur les familles, mais aussi sur les individus eux-mêmes, sur leur santé et sur les communautés.
Donc là, ça paraissait assez évident que de retour en Suisse, vous vous inscriviez dans la démarche de la Croix-Bleue internationale.
Alors, ce n'était pas prévu en tant que tel, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué lors de mon temps en Thaïlande, parce que la problématique, elle est vraiment normalisée, c'est-à-dire que les enseignants, le soir, à la fin de l'école, ils vont boire encore dans la cour de récré au sein même de l'établissement scolaire. Les gens, ils ne s'étonnent plus des morts sur la route liées à l'alcool.
Et donc ça vous a choqué ? Vous avez été peut-être affecté de manière directe par des drames en lien avec cette consommation d'alcool ou d'autres produits entre guillemets illicites ?
Alors, heureusement pas, j'ai pas été affectée par de drames directement. Enfin, nous avons malheureusement quand même des enfants avec lesquels on travaillait, qui sont leurs frères ou leurs sœurs qui sont décédés lors d'un accident de moto.
Donc, vous avez été confrontée quand même de manière très directe à des drames. Alors, aujourd'hui, vous êtes chargée de projets dans le cadre de la Croix-Bleue internationale et vous vous impliquez dans 4 pays d'Afrique pour quelque part valoriser cet objectif de développement durable numéro 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient durables. Alors concrètement, quels sont les pays d'Afrique dans lesquels vous êtes impliqué ?
Alors nous sommes impliqués dans 4 pays d'Afrique, au Togo, à Lomé, à N'Djamena, au Tchad, à Brazzaville au Congo et à Arusha en Tanzanie.
D'accord. Et dans ce contexte-là, vous êtes venu avec une petite histoire à nous raconter pour montrer un peu concrètement ce que la Croix-Bleue internationale met en place au Togo, c'est ça ?
Oui, d'abord peut-être pour les auditeurs, pour comprendre un petit peu mieux ce que l'IBC aussi fait dans ce cadre-là. Donc on met en œuvre un programme de compétences de vie et de père éducation.
Donc là, c'est un peu des termes très techniques. Il faut nous expliquer en quoi consiste ce programme de compétences.
Donc c'est vraiment des séances qui sont données dans des écoles, mais aussi au sein de groupes de jeunes, dans les églises, et qui permettent vraiment aux enfants de porter une réflexion sur la consommation d'alcool, d'apprendre des connaissances, des faits sur les maladies liées à la consommation d'alcool ou aux abus de drogue, de leur donner confiance, de développer leur capacité d'analyse.
Alors, expliquez-nous un peu concrètement, à Lomé, vous avez été impliqué avec quelqu'un et finalement, cette histoire, ce témoignage est assez exemplaire de ce que vous appelez l'IBC, là, International Blue Cross, voilà, et en français, la Croix-Bleue internationale, donc qui est vraiment exemplaire de ce que vous faites en tant qu'ONG sur place.
Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon qui a environ 13 ans et qui suit donc ses cours dans le cadre de son activité de football, donc dans son club de football. Et chaque jour, ce jeune enfant, il doit aller acheter de l'alcool pour sa tante avant le repas.
Donc la tante, là, c'est un peu la tante à l'africaine, c'est vraiment la maman qui s'occupe de lui.
Voilà, exactement. Ouais. C'est la personne qui s'en occupe. Voilà. Il allait régulièrement acheter le soda bi, l'alcool local, au magasin pour sa tante. Et il partageait aussi régulièrement avec sa tante des informations concernant ce qu'il apprenait lors de ses cours. Mais sa tante, ça ne l'intéressait pas trop, elle ne voulait pas savoir.
On peut dire que concrètement, sa tante était, excusez le terme, alcoolique.
Oui, il y a une consommation hebdomadaire d'alcool fort, oui.
D'accord. Et puis là, cet enfant a eu un impact au travers de votre enseignement. Il a eu un impact sur sa tante.
Oui, en effet, il a gagné suffisamment de confiance en lui, en ses connaissances, pour pouvoir s'opposer finalement à sa tante et lui dire « Non, aujourd'hui, je ne vais pas t'acheter ton alcool. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma responsabilité. Tu ne devrais pas boire de l'alcool. Ça a des dommages sur ta santé également. »
Donc là, c'est finalement un gros enjeu de formation pour permettre à des enfants ou à des adolescents, j'imagine, de vraiment résister à une demande parentale pour dire « Écoute, là, je ne vais pas être quelque part collaborateur dans ta consommation d'alcool. »
Oui, c'est très juste, surtout dans des contextes culturels aussi où peut-être la hiérarchie d'âge est beaucoup plus forte, où on ne s'oppose pas non plus face à quelqu'un qui est plus âgé. Et donc, c'est vraiment leur donner cette confiance et leur apprendre aussi des manières de communiquer les choses de manière non violente pour que le message puisse passer auprès des autres interlocuteurs.
Et là, c'est vraiment ce que vous mettez en avant au travers de cet enseignement que vous appelez compétences de vie.
Oui. Donc, c'est des compétences que ces jeunes vont pouvoir les utiliser dans différents aspects de leur vie, dans leur futur, dans leur formation. Et c'est vraiment une manière pour
ces enfants.
Oui, ces jeunes de...
Quelque part, vous diriez, de résister un peu à une consommation abusive de la part de proches.
Oui, pas seulement de résister, mais aussi d'avoir de connaître les argumentations pour pouvoir engager dans une discussion pacifique avec l'autre et de pouvoir avoir confiance en ses choix et puis pas se remettre en doute face à la pression des pairs.
Alors, vous nous avez parlé de cet adolescent ou de ce jeune inscrit dans une dynamique de club de foot. Comment est-ce que ça s'est poursuivi lorsque il a mis en garde ou il a quelque part refusé d'apporter à sa tante le produit qu'elle souhaitait?
Alors, sa tante, elle était très choquée. Elle n'arrivait pas à y croire à ce qui se passait. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et quelque part, ça l'a quand même fait un petit peu réfléchir. Elle s'est dit, OK, mais pourquoi maintenant, tout soudain, il me refuse d'aller acheter cet alcool? Et donc, quelques semaines plus tard, le jeune garçon, il rentre à la maison avec un flyer de la Croix-Bleue pour une invitation pour les parents à participer à une séance. Et donc, cette tante, elle décide d'y participer pour un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec son garçon. Lors de cette séance, elle rencontre non seulement d'autres parents, mais elle prend vraiment conscience de l'effet néfaste de l'alcool sur sa santé. Et elle y va visiter ses séances régulièrement et vraiment... l'impact sur leur relation. Ce qu'elle expliquait, elle, c'est que vraiment, la relation avec son fils...
Ça a eu un impact fort.
Voilà. Parce qu'à travers ses compétences qu'elle a pu aussi acquérir lors de ses séances avec les parents, il y a aussi beaucoup de discussions sur l'éducation des enfants, comment aborder les différents sujets. Et donc, ça lui a vraiment permis de rentrer dans une communication de nouveau avec son enfant.
Et ça, donc, vous le proposez dans 4 pays d'Afrique différents. C'est un peu le même type d'accompagnement que vous proposez?
Alors, chaque pays peut définir ses activités spécifiquement à son contexte. L'objectif reste le même, mais chacun le met un peu en place selon son contexte. Voilà.
Alors, cet ODD, Objectif de Développement Durable numéro 11, vise à promouvoir des villes durables. Et finalement, comment est-ce que la foi chrétienne, à votre sens, ou les valeurs chrétiennes, viennent appuyer un tel objectif?
Alors, je pense que l'objectif 11, il est vraiment axé sur le bien vivre ensemble, sur les questions de solidarité au sein de la communauté, de respect des uns des autres. Et ce sont aussi des valeurs centrales à l'IBC qui fondent son action sur le message central de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres ». Et donc, il s'agit vraiment de prendre des responsabilités communes pour le bien de tous, de partager, de s'entraider et surtout aussi d'accepter les différences et de ne pas juger. Voilà, pour avancer ensemble.
Et ça, c'est important pour qu'un véritable accompagnement de situations difficiles puisse s'opérer.
Oui, je dirais aussi, ça permet dans les communautés, voilà, avec les problèmes d'addiction, ça crée des tensions au sein des communautés. Et donc, vraiment d'avoir une approche de l'amour de son prochain, de l'entraide, et puis surtout d'apprendre à ne pas juger négativement quelqu'un qui est touché ou affecté par des addictions, mais au contraire de venir en aide et de le tirer, voilà, exactement.
Avec ainsi, certains diront qu'en une bouteille on mettrait Paris. avec un si. C'est si facile de dire sans faire pour taire les cris. Avec un si, une seconde changerait le monde, changerait la vie.
Alors allez viens, faut qu'on essaye un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaye un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux, que demain sera mieux, sera mieux, que demain sera mieux.
Avec un si, et seulement si on donnait nos cœurs, on donnait nos vies. Avec un si, facile à dire, pas facile à faire, ça reste un pari. Et c'est ainsi qu'on se dit que demain sera bien mieux qu'hier, mieux qu'aujourd'hui.
Alors allez bien, faut qu'on essaye un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez bien, on essaie un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux, que demain sera mieux, sera mieux, que demain sera mieux, sera mieux.
Et à quoi bon vouloir changer les choses, et à quoi bon si l'homme ne change pas, on aura beau aux anges jeter des roses, si ce n'est que parler, parler, parler.
Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez viens, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux.
Alors allez viens, tracer le chemin de fer, que demain sera mieux. Alors allez bien, faut qu'on essaie un peu de croiser nos chemins de fer, que demain sera mieux, que demain sera mieux, sera mieux, que demain sera mieux.
Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous parlons aujourd'hui avec Sophie Tarquini, chargée de projet à la Croix-Bleue internationale, de l'ODD numéro 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Ce qui est intéressant, Sophie, c'est que historiquement, cette ODD, on pourrait le rattacher aux origines de la Croix-Bleue. Une Croix-Bleue, une association, une ONG qui a ses origines du côté de Genève, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Je pense que le rapprochement, il est très juste. C'est vrai que le berceau de la Croix-Bleue, elle est donc à Genève, et que l'origine de la Croix-Bleue, enfin, les raisons de la fondation de la Croix-Bleue étaient vraiment liées au problème d'alcool à la fin du 19e siècle, qui était très répandu dans la société, et que ça a vraiment incité donc, le pasteur suisse, Louis-Lucien Rochat, à s'engager pour ces personnes-là.
Oui, on peut dire que c'est quelqu'un qui est natif de Genève, qui a fait tout un parcours d'études avant de développer une véritable vocation pastorale, et qu'il a été comme pasteur stagiaire, on pourrait dire, du côté de Cossonay, que là, dans le canton de Vaud, il a été vraiment confronté à des familles marquées par des drames de l'alcoolisme.
Oui, tout à fait. Voilà, il a été confronté à beaucoup d'enterrements avec des causes de décès liées à l'alcool, mais aussi à des problèmes, enfin à la pauvreté, au manque d'hygiène, voilà, de ces populations-là, et ça l'a énormément touché. Et c'est en 1877 qu'il va fonder une société, la société
de tempérance, hein, comme on disait à l'époque, de termes qui sont peu prisés aujourd'hui, mais finalement ça va être un peu l'origine de la Croix-Bleue et l'origine de la fêtière, hein, dans laquelle vous êtes impliqué aujourd'hui, la Croix-Bleue internationale.
Oui, absolument. Donc, c'est vraiment l'origine, finalement. Alors, le but de cette société, à l'origine, c'était déjà de soutenir les personnes dépendantes dans leur effort, du coup, d'abstinence. Et puis, par solidarité, les fondateurs ont aussi s'engagé à vivre aussi dans l'abstinence pour soutenir ces personnes qui vivaient avec des addictions.
Ce qu'on peut dire concrètement, c'est que la Croix-Bleue, au plan international, c'est un peu la deuxième association après les Alcooliques Anonymes qui vient quelque part en aide aux familles victimes des addictions.
Oui, c'est ce qu'on lit en tout cas très souvent, qu'on est la deuxième après les Alcooliques Anonymes. Je pense qu'on vient en aide aux victimes, aux proches aussi de ces gens qui vivent avec des addictions.
Donc vous diriez que vous êtes quelque part plus focalisé sur le cercle familial que sur la personne elle-même qui consomme ?
Non, je dirais qu'on est aussi très focalisé sur la question de prévention.
D'accord.
Et pas seulement sur...
Alors, question de la gestion de l'addiction.
Chaque Croix-Bleue nationale a leur propre objectif spécifique lié à leur pays. Mais c'est vraiment... C'est une combinaison de prévention et de soutien aux familles et aux individus. Donc, c'est vraiment une combinaison des deux.
Sophie Tarquini, aujourd'hui en Suisse, on vit quand même dans une culture qui est très marquée par la consommation d'alcool, où on a presque parfois besoin de son petit verre de blanc pour être dans une dynamique de convivialité. Est-ce que c'est pas difficile pour vous d'amener dans un tel contexte un message de prévention ?
Non, je pense pas. Je pense que parce qu'on ne force pas l'abstinence, nous avons un message, comme vous le dites, de prévention, d'information. Et nous cherchons à soutenir les personnes, mais en aucun cas à leur dire ce qui est juste ou faux.
Et donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique de non-jugement.
Oui, absolument.
Et de manière concrète, est-ce que finalement, du point de vue de votre stratégie, les personnes à essayer de rencontrer au premier chef, c'est plutôt l'entourage du consommateur que le consommateur lui-même ?
Alors, au sein des Croix-Bleues nationales, il y a des consommateurs qui s'y présentent de par eux-mêmes, par un choix qu'ils ont fait pour leur futur, pour leur vie.
Donc là, des gens qui s'engagent à l'abstinence.
Voilà. Mais il y a aussi également beaucoup de gens qui viennent chercher un soutien auprès de gens qui vivent des choses similaires, que ce soit des jeunes, des enfants ou des adultes qui ont besoin de ce soutien.
Et concrètement, là, qu'est-ce que vous leur proposez ? Des groupes ou des...
Alors, dans les 4 pays d'Afrique où nous, on travaille directement en tant que IBC, on a des groupes de soutien similaires, alors d'une part aux alcooliques anonymes, et on a d'autres types de groupes de soutien plus liés aux violences domestiques, aux violences de genre. Et donc, ces enfants, ces jeunes, ils peuvent se retrouver là, accompagnés par une personne compétente pour les guider.
Et finalement, de manière pratique, vous entrez pleinement dans l'accomplissement ou dans l'agenda de ce que propose cet objectif de développement durable numéro 11 pour des villes ouvertes à tous, sûres et surtout durables, donc qui permet à des gens de développer une vie saine et une vie marquée par un minimum de respect sans dépendance à des produits addictifs.
Oui, absolument. Et plus que cela, on travaille également avec des leaders politiques et religieux pour voir pour les modifications de lois et pour encourager les politiques à prendre des mesures plus restrictives.
Sophie Tarquini, merci beaucoup d'être venue évoquer l'objectif de développement durable numéro 11 qui vise, je le rappelle, d'ici 2030 à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Je rappelle que vous êtes chargée de projet à la Croix-Bleue internationale à Berne. Si certaines personnes souhaitaient en savoir davantage sur vos activités, vous avez un site web ?
Oui, bien sûr, www.internationalbluecross.org.
Donc là, c'est le fameux IBC et que j'ai traduit de manière systématique, Croix-Bleue internationale. Sophie, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Je rappelle, si les auditeurs souhaitent en savoir plus sur les objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proposent et mettent en place pour les promouvoir, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Stop Pauvreté, stoppauvreté.ch, et à commander la brochure God's Global Goals, une brochure qui vous présente les activités de toute une série d'ONG en lien avec ces 17 objectifs de développement durable. Madame, Monsieur, merci de votre écoute. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Au revoir et à bientôt.
Un air d'actu. avec Serge Carrel.